De même, dirons-nous, le poète, par une couche de mots et d'expressions figurées, rend en quelque sorte la couleur des différents arts sans s'y entendre en rien, sinon comme imitateur, de sorte que, pour ceux qui ne regardent qu'aux mots, avec la mesure, le nombre et l'harmonie de son langage, il semblera avoir parlé très pertinemment, soit qu'il s'agisse de cordonnerie, ou de la conduite des armées, ou de tout ce qu'on voudra, tant il y a naturellement de prestige dans la poésie. Au reste, tu sais, je pense, quelles figures font les vers, dépouillés du coloris musical et réduits à eux-mêmes. Tu l'as sans doute remarqué. Oui, n'en est-il pas comme de ces visages qui n'ont d'autre beauté qu'une certaine fleur de jeunesse, lorsque cette fleur est passée? Cette comparaison est juste. Allons plus loin. Le faiseur de fantômes, c'est-à-dire l'imitateur, ne connaît que l'apparence des objets, et nullement ce qu'ils ont de réel, n'est-il pas vrai? Allons plus loin. Le faiseur de fantômes, c'est-à-dire l'imitateur, ne connaît que l'apparence des objets et nullement ce qu'ils ont de réel, n'est-il pas vrai? Oui. Eh bien, ne nous arrêtons pas à moitié chemin, examinons la chose à fond. J'y consens. Le peintre, disons-nous, peindra une bride et un mort. Oui. Le sellier et le forgeron les confectionneront. Fort bien. Mais, quant à ce qui est de savoir comment doivent être faits cette bride et ce mort, est-ce le peintre qui s'y connaît? N'est-ce pas même un autre que celui qui les fait, et le sellier et le forgeron? N'est-ce pas celui qui sait s'en servir, c'est-à-dire le seul écuyer? Cela est très vrai. Voici donc une distinction générale que nous pourrions établir. Laquelle, Socrate? Je veux dire qu'il y a trois arts qui répondent à chaque chose. L'art qui s'en sert, celui qui l'a fait, et celui qui l'imite. Soit. Mais à quoi tendent les propriétés, la beauté, la perfection d'un meuble, d'un animal, d'une action quelconque, sinon à l'usage auquel chaque chose est destinée par sa nature ou par l'intention des hommes? À nulle autre chose. C'est donc une nécessité que celui qui se sert d'une chose la connaisse mieux, et qu'il dirige l'ouvrier dans son travail en lui apprenant ce que son ouvrage a de bon ou de mauvais par rapport à l'usage qu'il en fait lui-même. Le joueur de flûte, par exemple, apprendra à celui qui fabrique cet instrument quelles sont les flûtes dont il se sert avec le plus d'avantages. Il lui prescrira la manière dont il faut les faire, et celui-ci lui obéira. Sans doute. Le premier prononcera donc sur les flûtes, bonnes et mauvaises, en homme qui sait. Et le second travaillera sur la foi du premier. Oui. Ainsi, à l'égard du même instrument, le fabricant jugera qu'il est bon ou mauvais par simple foi, en vertu de ses relations avec celui qui sait, et parce qu'il est obligé de s'en rapporter à lui. Mais c'est l'homme qui fait usage de la chose, auquel appartient essentiellement la science.
Très bien. Et l'imitateur apprend-il par l'usage de la chose qu'il imite, à savoir si elle est belle et bien faite ou non? En acquiert-il du moins une opinion juste par la nécessité où il se trouve de converser avec celui qui sait, et parce que celui-ci lui prescrit ce qu'il doit imiter? Ni l'un ni l'autre. L'imitateur n'a donc ni science, ni même d'opinion juste touchant ce qu'il y a de bien ou de mal fait dans tout ce qu'il imite. Il n'y a pas apparence. À ce compte, notre imitateur devra connaître à merveille les choses qu'il imite. Pas beaucoup. Cependant, il ne se fera pas faute d'imiter sans savoir si rien de ce qu'il imite est bon ou mauvais, et, selon toute apparence, ce qui semble beau à une multitude ignorante sera précisément ce qui l'imitera. Inévitablement, nous avons donc suffisamment démontré deux choses. L'une, que tout imitateur n'entend pour ainsi dire rien à ce qu'il imite, et que l'imitation n'a rien de sérieux et n'est qu'un badinage d'enfant. L'autre, que tous ceux qui s'appliquent à la poésie dramatique, qu'ils composent en vers iambiques ou en vers héroïques, sont imitateurs autant qu'on peut l'être. Oui, certes. Mais quoi ? Cette imitation n'est-elle pas éloignée de la vérité de 3 degrés ? Oui. D'un autre côté, sur quelle partie de l'homme exerce-t-elle le pouvoir qu'elle a ? De quoi veux-tu parler, Socrate ? Tu vas le savoir, n'est-il pas vrai que la même grandeur, regardée de près ou de loin, ne paraît pas égale ? Oui. Que le même objet paraît droit ou brisé, convexe ou concave, lorsqu'on le voit hors de l'eau ou dans l'eau, à cause de l'illusion que les couleurs font au sens de la vue. Et de là, évidemment, une grande perturbation dans l'âme. Or, c'est à cette disposition de notre nature que l'art du dessinateur vient tendre des pièges, ainsi que l'art des charlatans et beaucoup d'autres semblables, ne négligeant aucun artifice pour la séduire. Tout à fait. Mais n'est-il pas reconnu aussi que mesurer, compter et peser sont d'excellents préservatifs contre ces illusions, de façon que ce qui prévaut en nous, ce n'est pas l'apparence sensible de grandeur ou de petitesse, de quantité ou de poids, mais bien le jugement de la partie de l'âme qui calcule, pèse, mesure. Oui. Or, toutes ces opérations ne sont-elles pas du ressort de la raison ? Oui. Mais quand un homme a bien mesuré une chose, et qu'il en vient à reconnaître qu'elle est ou plus grande, ou plus petite, ou égale, il se trouve alors avec 2 jugements opposés, touchant les mêmes choses. Certainement. Mais n'avons-nous pas dit qu'il était impossible que la même partie de l'âme portât en même temps sur la même chose 2 jugements opposés ? Oui, et nous avons eu raison de le dire. Par conséquent, ce qui juge en nous sans égard à la mesure est différent de ce qui juge conformément à la mesure. Nécessairement. Mais la partie de l'âme qui s'en rapporte à la mesure et au calcul est ce qu'il y a de plus excellent dans l'âme. Sans contredit. Donc, l'autre partie qui est opposée à celle-là est quelque chose d'inférieur en nous. Ouais, il faut bien que cela soit. Et c'est là précisément ce que je voulais établir, lorsque je disais que si d'une part la peinture, et en général tout art qui consiste dans l'imitation, accomplit son œuvre bien loin de la vérité, de l'autre cet art a commerce et amitié avec une partie de nous-mêmes bien éloignée de la sagesse, et d'où il ne provient rien de vrai et de solide. Moi, j'en demeure d'accord. Ainsi, l'imitation mauvaise en soi, en mauvaise compagnie, ne produit que des fruits mauvais. Cela doit être. Mais ceci n'est-il vrai qu'à l'égard de l'imitation qui frappe la vue ? Et n'en peut-on dire autant de celle qui est faite pour Louis, et que nous appelons poésie ? Il est vraisemblable qu'on en peut dire autant de celle-ci. Toutefois, ne nous en tenons pas à cette vraisemblance et à l'analogie qui se trouve entre la peinture et la poésie. Pénétrons jusqu'à cette partie de l'âme avec laquelle la poésie imitative a un commerce intime, et voyons si cette partie est bonne ou mauvaise. Il le faut. Envisageons la chose de cette manière. La poésie imitative représente, dirons-nous, les hommes dans des actions forcées ou volontaires, en conséquence desquelles ils se croient heureux ou malheureux, et s'abandonne à la joie ou à la tristesse. Y a-t-il rien de plus dans ce qu'elle fait ? Rien. Or, dans toutes ces situations, l'homme est-il bien d'accord avec lui-même ? Au contraire, ne se trouve-t-il pas, par rapport à sa conduite, en contradiction et en lutte avec lui-même, comme il s'y trouvait tout à l'heure, à l'occasion de la vue, portant tout à la fois sur le même objet deux jugements contraires. Mais je me rappelle qu'il est inutile d'insister sur ce point, parce que nous sommes demeurés d'accord précédemment que notre âme était pleine d'une infinité de contradictions qui y règnent en même temps. Oui, nous avons eu raison.